RCF.
Vendredi 18h10, on est ensemble pendant 50 minutes dans le magazine régional sur RCF, France-Ardennes RCF, Cœur de Champagne RCF, Champagne-Ardennes en DAB+, la radio numérique. Merci de votre fidélité à ce magazine où dans quelques instants nous partirons au Haut-Karabakh avec le professeur Jacques Cohen. On en a déjà parlé la semaine dernière, on se pose une nouvelle question aujourd'hui, changement de souveraineté ou exode arménien. On en saura plus d'ici quelques secondes à l'intérieur de la chronique d'actualité. Vous le savez, aux alentours autour de 18h20, un maire qui nous parle tous les soirs. On ira dans les Ardennes ce vendredi rencontrer Raymond Mahut, maire de Givonne, une commune qui se situe pas loin de Sedan dans le département des Ardennes. Donc 18h30, c'est le journal régional. Après quoi, on ira faire plusieurs rencontres. Nous serons notamment avec Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, l'archevêque du diocèse de Reims et des Ardennes. Nous serons également avec Jean-Marc Tessier, qui est l'organisateur des Artistes contre le cancer. C'est une exposition organisée à Vitry-le-François. Le coup d'envoi, c'est demain. Et puis enfin, rencontre avec Élodie Marchal, présidente des Amis des Orgues de Châlons en Champagne. Voilà pour le programme de ce magazine régional où l'on va vous donner plusieurs rendez-vous pour ce week-end. Et bien évidemment, dimanche à la basilique Saint-Rémy de Reims, c'est la fête de Saint-Rémy, la solennité de Saint-Rémy à 16h en la basilique. Vous pouvez vous y rendre si vous ne pouvez pas. Et bien sur RCF France-Ardennes, nous retransmettons la célébration en direct et en intégralité. Une messe qui sera présidée par Monseigneur Bruno Feuillet, évêque du diocèse de Cé, ancien évêque auxiliaire du diocèse de Reims et des Ardennes, qui sera présent pour ce grand événement. Allez, c'est parti pour l'émission. Ce soir, dans la continuité de la semaine dernière, on part entre Arménie et Azerbaïdjan avec le professeur Jacques Cohen, en ligne avec nous par téléphone. Bonjour Jacques.
Bonjour.
Vous étiez avec nous il y a quelques jours pour nous parler du conflit Arménie-Azerbaïdjan. On a parlé d'un feuilleton avec des épisodes qui s'enchaînent, et ça va tellement vite dans cette saison qu'on est obligé de vous retrouver aujourd'hui, Jacques Cohen, parce qu'il faut dire que les événements se précipitent.
Oui, l'événement important est que Bakou a décidé d'anéantir la capacité militaire des Arméniens du Haut-Karabakh. Il faut bien faire attention, il ne s'agit pas des Arméniens de la République d'Arménie et de l'armée donc arménienne, il s'agit du réarmement discret comme milice de la population du Haut-Karabakh. Je vous rappelle, non pas toute l'histoire, mais que les Arméniens n'avaient pas tout à fait respecté ou traîné les pieds suite à l'accord de cessez-le-feu après la guerre de 2020 et n'avaient pas libéré totalement le corridor reliant le Nakhitchevan, qui est dépendant de Bakou, qui est azerbaïdjanais, à la République d'Azerbaïdjan, en réponse de quoi les gens de Bakou avaient plus ou moins bloqué, puis totalement bloqué, le corridor de la Chine, qui lui relie le Haut-Karabakh à l'Arménie. Et puis, on en était là, sauf que les Arméniens du Haut-Karabakh ont commencé une espèce de guérilla en posant quelques mines sur le chantier de l'autoroute qui doit relier l'Azerbaïdjan à ce Haut-Karabakh par l'est, c'est-à-dire depuis le territoire de Bakou. Et là-dessus, donc Bakou a sauté sur l'occasion de décider d'anéantir cette mini-force militaire qui n'était de toute façon pas prévue dans les accords, parce qu'il faut rappeler que le Haut-Karabakh est en Azerbaïdjan au point de vue administratif depuis le début de l'Union soviétique, et que même l'Arménie n'a jamais remis ça en cause. Lorsque l'Arménie a envahi cette zone et accessoirement toutes les zones de l'Azerbaïdjan autour, il n'y a pas eu de rattachement proprement dit du Haut-Karabakh à l'Arménie. On est resté sur une situation de front gelé avec des tranchées. Et puis, la nouvelle guerre a cette fois-ci renversé les choses. Alors lorsqu'en 90, 92 et 94, les gens de Bakou avaient perdu la guerre, les populations non-arméniennes en avaient été chassées, ou s'étaient barrées, ou les deux à la fois. Lors du cessez-le-feu sous l'égide russe récemment, après la dernière guerre, la population du Haut-Karabakh restait sur place et devait être négociée quel était leur degré d'autonomie culturelle ou autre dans le cadre de la République d'Azerbaïdjan. Et là, Bakou a sauté sur l'occasion de reprendre un contrôle total de l'enclave à partir du moment où inconsidérément les Arméniens de cette enclave avaient commencé à essayer de saboter militairement, donc sous forme de guérilla, la construction de la route les reliant vers Bakou. Alors, il y a une grande incertitude qui reste sur le prochain épisode. Est-ce que les gens de Bakou vont chasser les Arméniens restants du Haut-Karabakh? Où est-ce que ceux-ci vont se sauver? Où vont-ils rester et finalement entamer une coexistence plutôt plus forcée que voulue, mais dans des conditions qui leur seraient octroyées par Bakou et que la Russie garantirait? Car en effet, tout ça dépend aussi de la position de la Russie. Alors la Russie, elle a laissé faire, alors qu'elle a une force d'interposition, d'une part parce que ça ne correspondait pas à l'accord qui a été passé sous l'égide de la Russie et de la Turquie entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie il y a peu de temps, mais aussi parce que l'Arménie a voulu diversifier un peu ses protections et a fait une mini-manœuvre, 130 soldats, avec les États-Unis il y a à peine quelques jours.
Mais de là, Jacques Cohen, quel est le jeu de la Russie finalement?
Bien, je pense qu'elle a toujours été le principal arbitre de la région et qu'avec ses difficultés actuelles, l'Arménie a tenté de voir un peu s'il pouvait jouer sur plusieurs tableaux, en particulier sur celui des Américains, et que ça, les Russes n'ont pas apprécié, moyennant quoi ils ont fait sentir que les Américains aiment peut-être les Arméniens, mais qu'ils sont loin, et que la seule chance pour les Arméniens de ne pas voir Bakou poursuivre, c'est de s'aligner sur la Russie. Car il y a encore des épisodes prévisibles, hélas. Le corridor sud n'est toujours pas réglé, celui qui relie à travers l'Arménie Azerbaïdjan à Azerbaïdjan. Et il y a aussi la question de la route qui descend vers ce corridor, qui fait du crochet ou du tricot avec la frontière, où les Arméniens ont fait une attaque il y a quelques mois pour conquérir des positions stratégiques, moyennant quoi ils ont la possibilité, les gens de Bakou, de couper cette route et donc de couper l'Arménie de sa zone sud et donc du corridor quand ils veulent en quelque sorte. Donc la négociation, c'est aussi le respect de tout cet accord, de rajouter ou bien la poursuite de la part de Bakou de pousser ses pions jusqu'à ce que l'Arménie se réarme et qu'on se rentre dans un nouvel épisode. L'Arménie a acheté de l'équipement en Inde récemment, par exemple, et puis elle doit être en train d'essayer de négocier des armes américaines parce que le rapport de force militaire lui est pour l'instant très défavorable et que si on n'arrive pas à une coopération pacifique dans la région, il y aura encore de nouveaux épisodes assez régulièrement.
Mais on a quand même
C'est d'autant
l'impression.
plus rare, c'est d'autant plus dommage que stratégiquement, comme plateforme et comme nœud de communication, c'est ensemble que les deux pays pourraient avoir une position, j'allais dire, de roi du pétrole dans la région. Et malheureusement, comme je vous l'ai dit la dernière fois, les hommes ne font pas toujours ce qui est leur intérêt et les passions, et en particulier la guerre, prennent souvent le dessus.
On a quand même l'impression que chacune des parties joue un petit peu un double jeu. Finalement, il faudrait avoir des accords et s'y tenir. Et ça, ce n'est pas chose réussie d'avance, Jacques Cohen.
Absolument, parce que des accords, ça gère une situation à un moment donné, et celle-ci peut évoluer favorablement ou défavorablement. Et tant que la logique des uns et des autres est une logique de conflit jusqu'à récupérer leurs objectifs, et que ceux-ci sont antagonistes, les accords ne peuvent être imposés que par des puissances tutélaires. Et comme la puissance tutélaire de la Russie vacille ces temps-ci, eh bien les accords ne sont pas forcément respectés. Les buts de guerre pour Bakou, c'est de contrôler tout le territoire de la République d'Azerbaïdjan, et tant qu'à faire, de boucher le corridor permettant de relier le Nakhitchevan à la patrie, si j'ose dire, à la partie principale de l'Azerbaïdjan, et puis pour cela donc de couper toute possibilité réelle de l'Arménie de contrôler son secteur sud. Du point de vue arménien, eh bien c'est le contraire. C'est de récupérer le Haut-Karabakh, qui a toujours été peuplé d'Arméniens, éventuellement relié solidement à l'Arménie. Et puis d'autre part, d'embêter Bakou en les gênant pour les liaisons du Nakhitchevan, qui est à l'ouest de l'Arménie, vis-à-vis du pays principal d'Azerbaïdjan. Et comme je vous ai dit, les intérêts des uns et des autres pourraient être préservés dans un accord. C'est ce croix que les Russes et les Turcs pensaient avoir chaperonné. Et puis chacun semble reprendre ses velléités de revenir à ses objectifs initiaux, à moins, semble-t-il, que les Arméniens n'aient pas de contrôle sur la population et du Haut-Karabakh, qui s'appelle elle-même Artsakh, et qui veut être une république autonome, ce que même Yerevan ne voit pas d'un très bon œil. Il se peut aussi que les choses soient tout simplement une initiative locale de cette population isolée, n'ayant pas très très bien intégré l'évolution de la géopolitique.
Eh bien, un grand merci, professeur, de nous avoir éclairé sur ce conflit Arménie-Azerbaïdjan qui se poursuit. Certainement qu'il y aura d'autres épisodes dans ce feuilleton, d'autres séries, probablement d'autres saisons, d'autres
d'autres
saisons.
saisons. Alexis, on ne dit plus maintenant feuilleton et épisode, on dit série, saison et numéro.
Eh bien voilà,
J'ai appris ça récemment.
je vous sens au taquet, professeur. À très bientôt.
À très bientôt.
À Reims,
Chalon, Charleville-Mézières, c'est le 18-19 sur RCF.
Avant le journal régional, un maire vous parle, une maire ardennaise aujourd'hui, Raymond Mahut de Givonne est avec Jean-Pierre Benoît.
Madame Mahut, bonjour.
Bonjour monsieur.
Merci d'être avec nous aujourd'hui depuis les Ardennes. On est content de vous entendre. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu votre commune Givonne à quelques kilomètres de Sedan?
Voilà, Givonne est une commune rurale, on va dire plutôt périurbaine, puisqu'elle se situe à environ 5 km de Sedan et à une dizaine de kilomètres de la Belgique, dont Bouillon. Et c'est un village qui est très étendu sur à peu près, on va dire, 8-10 km de voirie. C'est un village très étendu et qui est situé dans un environnement préservé, que l'on protège amoureusement parce qu'on y tient, les habitants y
Alors,
tiennent.
On peut vous demander, forcément, vous qui êtes maire de la commune, s'il y a des habitants qui autrefois habitaient, par exemple, Sedan ou Charleville, qui se disent on va habiter Givonne maintenant parce qu'il y a un bel environnement. Raymond Mahut, est-ce que vous sentez qu'il y a des gens qui viennent dans votre village?
Oui, évidemment, et particulièrement depuis le Covid et le confinement. Ils recherchent une habitation avec un petit bout de terrain, un petit jardin, une terrasse, particulièrement ceux qui ont vécu le confinement en appartement, par exemple. Et on voit vraiment une recrudescence de demandes d'habitation avec principalement toujours un petit jardin ou une terrasse.
Combien d'habitants à Givonne?
1097.
Ah, c'est quand même, il y a quand même plus de 1000 habitants, c'est quand même pas le petit village, c'est déjà le bourg.
C'est un village qui en plus est attractif, de par les services qu'on a mis en place, en particulier le service périscolaire cantine, ce qui apporte un service évidemment très demandé de la part des familles. Et donc ce qui fait que Givonne reste un aspect attractif à ce niveau-là. Et également, ce qu'on me demande généralement quand on veut venir habiter à Givonne, est-ce qu'on a un accès Internet intéressant?
Ça, c'est important pour les personnes qui veulent faire du télétravail ou...
C'est les deux demandes, le périscolaire et l'accès Internet. Bon, maintenant, on est fibré avec la région qui a fibré toutes les Ardennes, en clair. Nous, on est totalement équipés. Donc ce problème-là est moins soutenu parce que voilà, ils peuvent avoir la fibre rapidement et gratuitement de par la région.
Raymond de Mahut, il y a plusieurs années, quelques années que vous êtes maire de Givonne. Et qu'est-ce qui vous a motivé un jour pour être maire? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui disent c'est compliqué, c'est une charge incroyable et qui refusent en quelque sorte de s'engager.
Oui, je suis entièrement d'accord et je pense que les prochaines élections communales, ça va être un problème, c'est un problème récurrent. Moi, bon, je suis maire depuis 2001, donc la situation et la société étaient différentes de maintenant, n'est-ce pas? Et de par mon activité professionnelle, puisque j'étais enseignante, j'avais quelque peu, un peu plus de disponibilité que des maires ou des personnes qui travaillent ou qui ont un travail assez prenant. Et là, ça devient compliqué. Et parce qu'il faut un peu de disponibilité, il faut aussi être convaincu que ce qu'on va faire, c'est un engagement républicain quand même aussi.
Alors, évidemment, Raymond de Mahut, je vous interromps, mais j'ai eu, grâce à Patrick Faustier, que vous connaissez bien, qui m'a donné vos coordonnées, et qui m'a dit, si vous interrogez Raymond de Mahut, vous verrez, non seulement c'est une personne compétente et dynamique, mais qui a eu et qui a un regard beaucoup plus général. Vous avez été vice-présidente, je crois, d'Ardennes Métropole. Vous avez eu des responsabilités. Je ne sais pas si vous les avez encore.
Non, j'en ai, mais plus dans le même domaine. Je suis conseillère déléguée dans le cadre de l'emploi et de l'insertion. Mais j'ai été vice-présidente dans le cadre du tourisme pendant 2 mandats, on va dire. Voilà.
Et on peut dire quand même que vous avez aussi un regard sur le fait d'être maire et le fait qu'il y ait une grosse agglomération comme Ardennes Métropole, hein, 100 000 habitants. Est-ce qu'on est encore, et je pose la question à chaque fois, le patron chez soi quand on est maire aujourd'hui et qu'on a eu un Ardennes Métropole? Oui, quand même.
Oui, bien sûr, parce qu'il y a des compétences qui ont été transférées, mais des compétences qui étaient quand même une charge importante pour des petites communes comme la mienne, en particulier l'eau, l'assainissement, les déchets, la mobilité. C'était des compétences qui étaient gérées en interne, mais qui étaient très lourdes à gérer, et dont on n'avait pas ni toutes les compétences, j'allais dire, intellectuelles, ni les services adéquats. Donc moi, je pense que le fait que cette agglomération gère ces services qui sont les premiers services en direction des habitants, hein, l'eau, l'assainissement et les déchets, et je pense que moi, pour moi, c'est une bonne chose. Je ne me sens pas du tout écrasé par Ardennes Métropole, au contraire.
Raymond de Mahut, une question aussi qui vient à l'esprit toujours quand on a les maires, c'est évidemment, est-ce que vous avez à court terme, à moyen terme ou à long terme, un ou deux projets qui vous tiennent particulièrement à cœur pour Givonne?
Alors, des projets, vous parlez de celui qu'on vient de terminer, c'est un aménagement de voiries, de trottoirs et d'espaces partagés, ce qu'on peut appeler, si on veut, une piste cyclable, et d'avoir incorporé dans cet aménagement-là des matériaux drainants, en liaison, je vais dire, avec le développement durable pour limiter le ruissellement des eaux de ruissellement.
Alors, ça se termine.
Ça, c'est terminé. Et on a un projet qui va être peut-être de moins grande ampleur sur au niveau de la Grand Rue, sur le fait qu'on va réaménager ces trottoirs et ces parkings, toujours dans l'état d'esprit de mettre en place et d'utiliser des matériaux qui préservent l'environnement et qui évitent d'accumuler les eaux pluviales dans le réseau, dans la rivière.
Alors ça, c'est un argument pour les personnes qui veulent venir. Ils vont trouver que Givonne est encore plus attractif, hein.
Oui, parce qu'on est dans cette dynamique-là. On peut plus quand même, j'allais dire, aménager ni fonctionner comme on faisait quand j'étais maire en 2001. On bétonnait, on mettait de l'enrobé partout, on faisait bien propre, et puis voilà. Alors que maintenant, dans cette perspective de développement durable et de protection de l'environnement, c'est un peu aussi notre cheval de bataille. Ça, voilà.
Raymond de Mahut, il nous reste une minute, ça va très très vite. J'aurais même pas le temps de poser les deux questions, mais j'en pose déjà une et puis l'autre tout de suite va venir après. C'est conjuguer vie professionnelle, vie familiale pour les nouveaux maires qui viennent et tout ça, c'est parfois difficile. Vous avez réussi quand même à faire ça.
C'est très difficile. Il faut que nos députés ou l'État se penche sur le statut de l'élu. Hein, c'est un statut d'élu qui date de plusieurs années. Il faut, je pense, le modifier pour que ce soit plus accessible et plus facile pour des nouveaux maires ou des nouveaux conseillers municipaux qui voudraient se lancer dans la gestion d'une commune.
Raymond de Mahut, pour terminer, une question simple, une réponse simple, il nous reste 20 secondes. Est-ce que vous êtes une maire heureuse?
Alors, heureuse, je ne suis pas malheureuse en tout cas. Maintenant, face aux responsabilités, bon, on apprend au fur et à mesure des mandats à les gérer, à les maîtriser.
Vous sentez bien dans votre peau comme maire de Givonne, vous nous l'avez prouvé parce qu'on sent une passionnée.
Bon, il y a toujours bien des moments où on est un petit peu, je veux dire, on se sent un peu, on veut lâcher un peu l'affaire parce que on n'a pas réussi à résoudre
mais
un problème.
Globalement, vous êtes partante.
Globalement, pour un peu de motivation, et puis on l'apprend tellement tous les jours, on en apprend tous les jours.
Merci Raymond de Mahut d'avoir été avec nous, maire de Givonne, dans les Ardennes, à quelques kilomètres de Sedan, et à très bientôt sur RCF.
À bientôt, au revoir.
Merci à tous les deux. La pendule flirte avec 18h30. C'est l'heure du journal régional sur RCF. Avec les titres de ce vendredi 29 septembre 2023, tourné en partie à Épernay et Châlons-en-Champagne, le long métrage consacré à Bernadette Chirac était cette semaine en avant-première au cinéma Le Palace à Épernay et le CGR de Châlons-en-Champagne. Apprendre une langue étrangère, ce n'est pas toujours évident. De nombreux étudiants font le choix de partir à l'étranger le temps des vacances scolaires ou pour leurs études afin de progresser. Rencontre.
RCF. RCF, l'actualité régionale, Alexis Claudretz.
On vous parlait de ce rendez-vous, on vous en parle même depuis une semaine. Dans le diocèse de Reims et des Ardennes, la neuvaine de Saint-Rémy se clôturera dimanche avec la solennité de Saint-Rémy en la basilique Saint-Rémy de Reims à 16h. Au programme notamment procession de la chasse et illumination de la couronne aux 96 bougies qui représentent les 96 vies de Rémy. Une célébration qui sera à vivre en direct et en intégralité sur RCF Reims-Ardennes dimanche. Les cinémas, le Palace à Épernay et CGR à Châlons-en-Champagne ont projeté en avant-première Bernadette, un film tourné en grande partie dans ces deux communes, comme nous l'explique la réalisatrice Léa Domenac.
En fait, on a pas mal reconstitué l'Élysée, figurez-vous, dans la région. L'hôtel de ville en fait, de Châlons-en-Champagne nous a servi pour faire notre préfecture de Versailles, où à un moment donné, Bernadette Chirac se rend à la rencontre de son ami Bernard Niquet, qui est devenu préfet de Versailles. Et à Épernay, on a tourné dans beaucoup à l'hôtel de ville, et dans des salons, des hôtels particuliers de Champagne aussi pour reconstituer l'Élysée. Donc c'est vrai qu'on a passé un petit mois, même un gros mois, ici en Champagne.
Un film retraçant la vie à partir de 1995 de Bernadette Chirac, jouée par Catherine Deneuve. La réalisatrice a voulu transmettre la véritable histoire de l'ex-première dame, le tout dans une comédie, Léa Domenac.
Bernadette Chirac, je pense que c'est un personnage qui a pas mal accompagné mon enfance. Bon, bah déjà, c'était la femme du président. À partir du moment où j'ai eu 12 ans, elle est arrivée à l'Élysée, donc je l'ai pas mal vue. J'ai un père aussi qui est journaliste politique, qui a beaucoup travaillé sur les Chirac. Ça a résonné en moi, mais c'était quelqu'un dont j'avais pas forcément une très bonne image. Elle a changé cette image le jour où j'ai vu un documentaire qui s'appelle Bernadette Chirac, mémoire d'une femme libre, de Anne Barrère, qui avait été sa conseillère en communication, où là, Bernadette Chirac avait 80 ans, et en fait, elle racontait un peu tout ce qu'elle voulait, tout ce qu'elle pensait, tout ce qui lui passait par la tête. Donc déjà, j'ai trouvé super marrante, et en plus, j'ai découvert qu'elle avait une vraie histoire à raconter, donc l'histoire de la revanche d'une femme, donc celle que je raconte en fait dans le film. Le vrai challenge, justement, c'était de faire en sorte qu'on rie avec elle et non plus qu'on rie d'elle. Évidemment, je veux que les gens apprennent des choses, les gens vont apprendre des choses, qu'il y a des choses qui sont vraies dans ce film, tout n'est pas faux, mais le but, c'est quand même de passer un bon moment et de rire avant tout.
Propos recueillis au micro RCF Cœur de Champagne de Christopher Fausten. Le long métrage de Léa Domenac consacré à Bernadette Chirac sera en salle le 4 octobre, c'est mercredi prochain. Pour parfaire l'apprentissage de langue étrangère, de plus en plus d'étudiants font le choix de partir à l'étranger. Et lorsqu'il s'agit d'apprendre l'anglais, les États-Unis ont la cote. Marie-Charlotte, étudiante en troisième année de licence sociale à l'Institut catholique de Paris, campus de Reims, est partie 2 mois cet été.
En fait, ça fait environ 1 an que je planifiais d'aller aux États-Unis parce que j'adore ce pays. J'y étais déjà allée une fois il y a 5 ans en voyage d'école et je voulais y retourner pour apprendre l'anglais. Donc, on va dire, j'ai essayé plusieurs démarches auparavant. Je voulais partir avec une de mes amies, mais ça n'a pas fonctionné. Je me suis ensuite inscrite sur un site qui met en relation donc les personnes étrangères voulant travailler dans un pays et donc les natifs qui veulent accueillir donc des Français et d'autres personnes. Ça a marché, mais j'ai refusé parce que j'ai retrouvé une autre offre via des amis d'amis et ça m'a beaucoup plu. Voilà.
Et le moins que l'on puisse dire, c'est que même en quelques semaines seulement, les progrès se font ressentir.
Rien que la compréhension, c'est fou, mais rien que passer 4 semaines, déjà au bout de 4 semaines, je comprenais presque tout. Alors qu'avant, bon, la compréhension, c'était vraiment mon point noir en anglais. Après, au niveau de parler, bien évidemment, on rencontre des gens, donc on est obligé de parler. Donc ça aussi, ça s'est bien amélioré. Enfin, vraiment, je pense que niveau vocabulaire, grammaire, enfin, j'ai vraiment bien travaillé tout ça.
Si Marie-Charlotte a fait le choix d'un voyage de courte durée dont elle pourrait reconduire l'expérience, d'autres jeunes comme Margot, qui vient d'obtenir son baccalauréat l'été dernier, partent pour une année complète en tant que jeune fille au pair.
J'ai toujours eu l'âme d'une aventurière, si je peux dire ça. J'ai toujours voulu partir, découvrir le monde. Et faire fille au pair, c'était vraiment le moyen pour moi de partir, découvrir les États-Unis, un pays que j'adore. Et un pays où c'est que la langue, maintenant, c'est une langue universelle, où c'est qu'on a besoin de tout le temps parler, pratiquer l'anglais. Donc c'est très important pour les études et pour mon avenir. Donc j'ai toujours voulu faire ça, toujours adoré les enfants aussi. Donc faire fille au pair, c'était le parfait choix. Et en plus, en étant fille au pair, je peux aller à l'université. Donc parfait.
Un mois après son arrivée sur le sol américain, Margot est enthousiaste quant aux progrès effectués, affaire à suivre lors des 11 prochains mois. Programme sportif chargé avec un agenda complet ce week-end en football. Samedi à 15h, Troyes recevra Saint-Étienne pour le compte de la 9e journée de Ligue 2. En Ligue 1, c'est la 7e journée. Reims recevra Lyon dimanche à 13h. Il y aura aussi du basket au programme ce week-end avec le match Flamme Carolo Saint-Amand samedi à 20h pour la 2e journée de Ligue féminine de basket. À noter que sur vos antennes de RCF Cœur de Champagne et RCF France-Ardennes, samedi de 19h30 à 22h, votre émission Totalement Sport, le sport diplex, aura bien lieu pour la 3e semaine consécutive. Soyez à l'écoute de nos jeunes qui vous font partager, vivre l'actualité sportive locale des départements, notamment de la Marne et des Ardennes. Ainsi se referme ce journal. Le 18-19 en Champagne-Ardennes continue sur RCF.
Le 18-19,
tous les jours,
sur RCF,
à Reims,
Châlons, Charleville-Mézières.
On sillonne la région et on prend la direction de Vitry-le-François où une nouvelle exposition des artistes contre le cancer est lancée à partir de demain et ça sera visible jusqu'au dimanche 8 octobre à la médiathèque François Mitterrand de Vitry-le-François, donc qui accueille cette exposition au profit de l'Institut Jean Gaudinot de Reims. 11 artistes, dont 8 nouveaux, présenteront leurs œuvres, dont l'invité d'honneur est cette année Carlos Sablon de Châlons-en-Champagne. Pour nous présenter des artistes, Jean-Marc Tessier, l'organisateur de cette exposition.
Jean-Marc Tessier, bonjour.
Bonjour Gérald.
Vous êtes l'organisateur de l'exposition des artistes contre le cancer, une nouvelle édition ?
Oui, c'est une nouvelle édition. Ça doit être la 11e ou 12e, je ne sais plus, parce qu'on avait interrompu pendant le Covid et on a repris l'an passé.
Dans cette exposition, quels sont les artistes attendus ?
Alors, nous avons 11 exposants cette année. Et sur les 11, il n'y a que 3 exposants qui sont des anciens, si je puis dire. Donc tous les autres sont nouveaux. On accueille en particulier un peintre de renom qui a exposé déjà un peu partout, non seulement en Europe, mais en Amérique du Sud en particulier. Il est d'origine cubaine et il est installé maintenant à Châlons-en-Champagne. C'est Carlos Sablon. C'est un peintre de talent qui est déjà très connu des critiques artistiques et qui a des louanges à n'en plus finir sur les sites internet. Donc on est très heureux de l'accueillir et honoré de sa présence. En dehors de lui, il y a des peintres. Parmi les peintres, il y a des Chalonnais. Claire Dupont, qui peint depuis des dizaines d'années et qui est peintre de talent également. Monique Grandjean, qui peint aussi de manière un petit peu naïve et qui fait également des personnages en pâte à papier. Et plus près de nous, dans les peintres toujours, Coco Chailly, qui est une jeune femme qui fait de la peinture mi-concrète, mi-abstraite. Il y a aussi, et c'est plus original, Mathias Jourduy, qui crée des objets quotidiens, des petites fontaines, des vases en béton. C'est ça qui est assez original et surprenant, c'est qu'il arrive à donner des formes vraiment élégantes avec du béton. Bien connu dans le coin, Daniel Dumé-Dubu, qui est connu pour ses vitrines de Noël, pour les murs qu'elle décore à la demande de municipalités, ou sa dernière œuvre, la peinture du pont de Frignicourt. Pastelliste Ariel Belliard, elle expose depuis des années, donc tout le monde la connaît dans les fidèles de l'exposition. Et nous avons aussi deux photographes, Céline Leprêtre, qui photographie avec beaucoup de sensibilité des fleurs, des paysages. Et puis Francis Bardi, qui est connu pour avoir transporté beaucoup de gens dans l'entreprise de car dont il était patron, et qui aujourd'hui nous fait découvrir des pays exotiques.
Cette exposition, elle a lieu quand ?
L'expo a lieu du 30 septembre au 8 octobre à la médiathèque François Mitterrand, donc à Vitry-le-François, 60 rue du 11 novembre 1918. Les horaires, tous les après-midi, samedi, dimanche compris, de 14h30 à 18h.
Jean-Marc Tessier, merci. Et puis, on encourage nos auditeurs à venir vous rencontrer au cours de ces 8 jours.
Merci de votre attention.
Jean-Marc Tessier avec Gérald Gaillet de la rédaction de RCF Cœur de Champagne. L'exposition sera visible tous les après-midi de 14h30 à 18h à la médiathèque François Mitterrand de Vitry-le-François à partir de demain, samedi 30 septembre jusqu'au dimanche 8 octobre. 8 jours donc pour profiter de cette exposition. Les profits seront versés à l'Institut Jean Gaudinot de Reims.
Le 18-19 sur RCF.
Dans ce magazine régional, vous le savez, en alternance désormais avec Mgr Véteux, une fois tous les 15 jours, nous retrouvons Mgr Éric de Moulin-Beaufort, archevêque du diocèse de Reims et des Ardennes. Dans la rubrique Parole d'évêque, l'entretien, c'est avec Jean-Pierre Benoît.
Mgr Éric de Moulin-Beaufort est en direct avec nous de Rome. Mgr, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre, bonjour à toutes, bonjour à tous.
Alors pourquoi êtes-vous à Rome, Mgr ?
Alors, je suis à Rome d'abord parce qu'il y a un colloque consacré au père de Lubac qui a été prévu, organisé notamment par le centre Saint-Louis de l'ambassade de France. L'idée, c'est d'étudier la théologie de l'église du père de Lubac juste quelques jours avant le synode qui va s'ouvrir lundi prochain. Voilà, et puis, donc, je suis pour ça parce que le père de Lubac a été mon sujet d'étude et que ça m'intéresse de temps en temps d'entendre ce qu'on en dit. Et puis, il se trouve que samedi de demain, donc, il y a aussi le consistoire, c'est-à-dire la célébration au cours de laquelle le pape créera les nouveaux cardinaux. Et il y a parmi eux deux Français, Mgr Bustillo, l'évêque d'Ajaccio, et Mgr Christophe Pierre, qui est nonce apostolique à Washington. Donc, ça tombe bien que j'y sois pour montrer que l'Église de France est reconnaissante au pape de donner des cardinaux comme ça.
Alors c'est peut-être l'occasion aussi, puisque vous évoquez ce sujet de l'Église universelle, vous êtes à Rome, d'évoquer Marseille, parce qu'on ne vous a pas eu depuis et vous étiez présent, non seulement vous étiez un des acteurs, on vous a vu sur les écrans, vous avez pris la parole également. Globalement, comment avez-vous vécu ce moment de la venue du pape François ?
Eh bien, écoutez, avec beaucoup de gratitude et de joie. Alors, de gratitude pour Marseille, pour l'archevêque, Bernard Lavelline, qui avait voulu cela et qui avait été pour le diocèse, qui s'est vraiment formidablement mobilisé. Et aussi, je veux dire, la ville, le département, la région, enfin, tout le monde s'y est mis pour l'État, pour que cette ville soit un succès. Et donc, et puis, ceux qui sont venus. Et il y avait quand même des Rémois et des Rémoises, ou des gens de la diocèse. Donc je le remercie d'avoir fait ce long voyage pour permettre un succès. Et puis je la gratitude pour le pape, parce que je trouve que le pape nous a parlé avec son cœur, avec beaucoup de délicatesse, de douceur, d'exigence, comme toujours. Le pape ne parle pas pour nous passer la main dans le dos, mais pour nous pousser à aller plus loin dans la suite du Christ et dans le service du Christ. Mais il a fait ça avec beaucoup de douceur, d'attention, de disponibilité. Et voilà, tout ça a contribué à la très grande joie qui s'est manifestée, notamment pendant la messe.
Monseigneur, on va évoquer le diocèse, parce que dimanche, c'est la fête de Sarmie, ce qu'on appelle la solennité de Sarmie. C'est un événement aussi diocésain, traditionnel certes, mais un événement.
Oui, ben, c'est un peu... évidemment, c'est... niveau différent, mais comme nous l'avons vécu avec l'ordination de Mgr Véteux, comme on l'a vécu à une échelle plus large, qui intéressait l'Église universelle à Marseille, dans des moments qui donnent de la joie, vraiment, où on découvre ce qu'est l'Église. La joie que nous éprouvons dans les célébrations de ce genre, ça nous fait vivre vraiment ce qu'est l'Église. Après, il faut en vivre dans la vérité, au jour le jour. Mais c'est pour ces moments-là que nous appartenons à l'Église, parce que ce sont des moments où nous nous réunissons, pas pour nous dire meilleurs que les autres, pas pour écraser quelqu'un, pas pour mépriser quiconque, mais pour nous laisser atteindre, rejoindre par le Seigneur ressuscité, pour le laisser nous convertir, nous pousser davantage vers lui, et nous pousser davantage les uns vers les autres. Voilà, ce sont des moments, c'est ce qu'on vit tous les dimanches, mais quand on va à la messe, mais même en semaine, mais c'est ce qu'on met plus d'intensité dans ce genre de moment.
Rassemblement à Saint-Remy, à la basilique Saint-Remy, rassemblement de diocésains, avec, vous l'avez dit, monseigneur, prêtre, laïc, diacre, religieux, religieuse, monseigneur Véteux bien, sera là, bien évidemment, mais aussi, la venue de monseigneur Feillet.
Et oui, voilà, cette année, ben, chaque année, je demandais à quelqu'un de différent de présider, je m'inscris comme ça en l'EHPAD de mes prédécesseurs, et cette année, c'est monseigneur Feillet, qui était l'auxiliaire ici pendant plusieurs années, qui nous fait la joie, l'amitié de venir, et donc ça augmente encore, encore la joie de cette célébration que de le retrouver. Et lui-même est, je crois, très très heureux de venir et puis d'embraser la couronne.
Monseigneur, il y a aussi quelques jours plus tard, on peut déjà l'évoquer, le 7 octobre, c'est-à-dire samedi, non pas demain, mais le samedi suivant, rassemblement des acteurs pastoraux du diocèse. Ça aussi, c'est un moment important, cette période encore qu'on peut considérer de rentrée.
Oui, ben, là, l'idée, c'est à la rentrée, précisément, de réunir tous les membres des conseils locaux d'animation, des conseils d'animation missionnaire, des conseils économiques. Voilà, puis tous les prêtres, etc., enfin, tous les diacres, tous ceux qui, de manière, tous les laïcs en mission ecclésiale, des membres des services de César, voilà, pour que ben, nous puissions créer une culture commune et un élan commun. Voilà, cette année, j'ai écrit pendant cet été une lettre pastorale à partager ce jour-là, publier ce jour-là, et qui servira un peu de base à deux conversations, deux temps d'échange entre tous les participants. Ça se passe à Charleville pour changer. Et je remercie d'avance tous ceux qui viendront.
Et monseigneur, il nous reste encore 2-3 minutes. Quel est votre programme alors aujourd'hui pour en savoir un peu plus? Le colloque, vous y assistez en continu?
Non, alors face à ce colloque, je vais entre-temps rencontrer au milieu, je vais rencontrer le préfet du Dicasta pour les évêques, parce que il faut que je travaille aussi pour la conférence d'évêques de France. Et puis ce soir, il y a une réception d'ambassade organisée pour les participants du colloque, puisque le colloque est organisé par le Centre Saint-Louis de l'ambassade. Et puisque j'ai une minute, je voudrais dire vraiment un mot pour tous les Arméniens, et en particulier pour ce qui se passe au Haut-Karabakh, qui est vraiment très grave, très triste, très affligeant. Donc je voudrais assurer vraiment tous les Arméniens de ma prière. Voilà, c'était un peu l'objet des journées, des rencontres méditerranéennes qui ont eu lieu à Marseille avec des évêques et des jeunes en préparation de la venue du pape. Donc c'est la Méditerranée, mais aussi la mer Noire, parce que c'est la même eau. Et l'idée était d'échanger entre évêques et jeunes des cinq crises. Et vraiment ce qui s'est passé au Karabakh, c'est-à-dire l'invasion du Haut-Karabakh par l'Azerbaïdjan, profitant de ce que la Russie s'est occupée ailleurs et que le monde aussi regardait ailleurs, est vraiment très, très dramatique. Et c'est, voilà, il y a un exode considérable de population qui fuit parce qu'ils ne peuvent pas rester. Donc on a entendu que le Premier ministre arménien parlait de voyage ethnique. En tout cas, c'est un point vraiment d'attention très, très grand qu'il faut voir. Que vont devenir les populations arméniennes qui resteront et que deviendront les restes arméniens et de la culture arménienne qui sont très présents au Karabakh.
Et d'ailleurs, on a le sentiment, monseigneur, qu'on en a peu parlé. Ça a été couvert par d'autres sujets d'actualité. Et c'est passé, vous le soulignez, vous en avez parlé sans doute aussi beaucoup à Marseille, mais ça passe quand même assez inaperçu dans l'actualité.
Ben voilà, la France est partie des pays qui protestent, mais bon, ces pays-là sont rares. Et les protestations, évidemment, n'empêchent pas d'un pays de mener leur visée à bien. Voilà, il est toujours dramatique de changer les frontières comme ça et de faire dans la violence. Voilà, bon, en tout cas, c'est vraiment un sujet d'inquiétude et de prière et de soutien pour tous les Arméniens.
Merci, monseigneur, en direct.
Et voilà, bonne journée, de finition sur votre triste, mais que la journée soit bonne. Et la joie de fêter Saint-Remy, notre protecteur, qui intercède pour nous. depuis la nativité de Dieu. À bientôt.
À bientôt. Merci, Monseigneur. À très très bientôt. Au revoir et très bonne journée à Rome. Merci. Au revoir. À bientôt.
Merci, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort. Merci, Jean-Pierre.
À Reims,
Chalon, Charleville-Mézières, c'est le 18-19 sur RCF.
Une rencontre pour finir ce magazine régional. L'association des Amis des Orgues de Châlons-en-Champagne organise ce dimanche un concert d'orgues et trompes de chasse au profit de la restauration de l'orgue de la collégiale Notre-Dame-en-Vaux. Pour nous en parler, Élodie Marchal, présidente de l'association, est avec Christopher Fausten.
Élodie Marchal, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation dans les studios de RCF Cœur de Champagne pour nous parler de ce prochain rendez-vous de l'association Orgue et Trompe de Chasse. Un concert qui aura lieu ce dimanche 1er octobre à 16h en la cathédrale Saint-Étienne de Châlons-en-Champagne. Et c'est au profit de la restauration de l'orgue de la collégiale Notre-Dame-en-Vaux de Châlons-en-Champagne. Alors j'ai envie de dire, Élodie Marchal, ce n'est pas une première, un concert au profit de cette restauration. Où en êtes-vous justement sur la restauration de l'orgue de Châlons-en-Champagne, de la collégiale?
Alors effectivement, ce n'est pas une première, mais il faut savoir qu'une restauration, un dossier de restauration, ça peut être très très long. On avance doucement, mais on avance. Le premier dossier préalable aux travaux a été commandé par la mairie. La restitution a été faite auprès des administratifs de la mairie par le technicien conseil Eric Brossier qui était en charge de faire ce dossier. Ce dossier, en fait, est vraiment très très conséquent, mais prend toutes les mesures de l'instrument, voit vraiment ce qui ne fonctionne plus, ce qu'il faudrait faire, les préconisations du technicien conseil, et on a aussi des chiffres, ce qui nous permet à nous, associations, derrière, de pouvoir aller chercher des mécènes.
Donc vous êtes là pour chercher des mécènes, accompagner ce dossier, mais qui est géré par la ville de Châlons-en-Champagne.
Oui,
cet orgue, on rappelle qu'à 125 ans, qui fait partie, c'est l'un des 13 orgues de Châlons-en-Champagne.
Oui.
Alors est-ce qu'on peut expliquer un petit peu ce qui ne va pas à cet orgue de la collégiale Notre-Dame-en-Vaux?
Bah, beaucoup de choses en fait. Actuellement, je ne peux même plus le jouer. Même pour les offices, on ne peut même plus l'utiliser. Alors la particularité, c'est que ce grand orgue de tribune fonctionne avec l'orgue de chœur. C'est une particularité que nous voulons absolument garder à l'association et que le technicien conseil a fortement recommandé de garder.
Oui.
Il y a aussi, alors à la console en tribune, on a 4 claviers. Donc les 2 premiers fonctionnent avec des tuyaux qui sont placés en haut. Le 3e clavier n'a jamais été réalisé faute de moyens par le facteur d'orgue Joseph Merclin. Et le 4e clavier était celui qui fonctionnait avec l'orgue de chœur. Donc dans la préconisation du technicien conseil, il y a évidemment de réaliser ce 3e clavier. Donc on espère que cela pourra se faire. Sinon, alors actuellement, les touches, elles sont usées. Si on joue, on entend clac, clac, clac. Il y a dans les soufflets, il y a beaucoup de trous, si je puis dire. Les peaux, en fait, c'est des peaux de moutons qui relient les cuirs. Enfin, voilà. Et toutes ces peaux sont usées. En gros, quand on joue un accord, si on met trop de notes, les notes ne sortent plus.
D'accord.
Enfin, voilà, c'est...
Beaucoup de soucis.
Ah oui, oui.
Beaucoup de soucis, malgré tout, il y a eu quelques retouches il y a quelques années de cela, mais sans véritable résultat, on peut le dire.
Alors en fait, régulièrement, le facteur d'orgue passe pour voir que s'il fonctionne toujours.
Oui.
Nous, à l'association, nous sommes plusieurs organistes à aller le jouer quand même, malgré tout, parce qu'il faut quand même qu'il joue, en tout cas que le moteur s'allume.
Un peu un entretien, on peut dire ça comme ça.
C'est ça, on fait vraiment ce qu'on peut, hein. On ne pourrait pas accompagner un office, mais bon voilà. Il fonctionne quand même encore et il faut continuer à le faire jouer parce que sinon il fonctionnera vraiment plus du tout.
Et donc vous êtes confiante par rapport à la suite du dossier avec la ville de Châlons-en-Champagne?
Mais il faut être confiant, il faut être optimiste.
En tout cas, vous ne lâchez pas, vous, l'association des Amis des Orgues de Châlons-en-Champagne, à rechercher des mécènes, mais aussi à organiser des concerts au profit donc de la restauration de cet orgue. Et
voilà.
C'est le cas ce dimanche, 1er octobre, à 16h, à la cathédrale Saint-Étienne de Châlons-en-Champagne. Alors, présentez-nous ce concert assez original quand même, orgue et trompe de chasse.
Oui, alors l'idée nous est venue l'année dernière parce que pour la première fois, j'accompagnais des trompes de chasse pour la messe de la Saint-Hubert au mois de novembre.
Oui.
Et on a trouvé cette association tellement sympathique et originale que à l'association, on a décidé de leur demander si ce même groupe de trompes de chasse serait d'accord pour faire un concert carrément avec moi. C'est donc ce qui va se produire ce dimanche, 1er octobre, avant de refaire la messe de la Saint-Hubert le 3 novembre. Voilà.
Alors c'est un peu une première vraie expérience vraiment pour l'association.
Oui, ah bah oui, ça c'est vraiment une première. Mais à l'association, je crois que depuis que je suis présidente et même avant, on a rarement fait deux fois le même concert. Vraiment, c'est toujours une originalité. Ouais.
L'entrée libre donc, et on le disait, au profit de la restauration,
on peut
y aller sans réservation.
Oui, effectivement, entrée libre et puis on donne ce qu'on veut pour la restauration de l'orgue de Notre-Dame.
Et on invite bien sûr nos auditeurs à s'y rendre et à vivre ce concert orgue et trompe de chasse ce dimanche 1er octobre. Je rappelle, 16h à la cathédrale Saint-Étienne de Châlons-en-Champagne. Élodie Marchal, avant de nous quitter, on va peut-être parler aussi des prochains rendez-vous de l'association. Hein. On profite de votre présence pour annoncer d'autres rendez-vous dans les prochaines semaines, les prochains mois.
Oui, donc ce sera pour l'avant, enfin pour préparer Noël en fait. Comme à notre habitude, nous ferons 3 concerts à l'église Saint-Alpin tous les samedis du mois de décembre. Donc le samedi 2, le samedi 9 et le samedi 16 décembre.
Pendant le temps de l'Avent.
Exactement, il y aura un concert orgue et trompette, il y aura 2 orgues et 4 mains, et il y aura aussi un concert avec un chœur d'hommes. Voilà.
Et donc vous serez plusieurs à être mobilisés pour ces concerts. Comment ça se passe d'ailleurs le fonctionnement de l'association ?
Oui, alors bah, en général, on a la chance d'avoir en ce moment un bureau très actif. Après, on peut pas non plus être tout le temps là. Hein, donc, qui peut vient nous aider pour organiser les 3 concerts, voilà. Qui est disponible se vient et ce sera toujours avec grand plaisir, voilà.
Vous recherchez d'ailleurs des volontaires, des bénévoles à l'association pour peut-être encadrer les événements comme par exemple ces concerts que vous ferez pendant le temps de l'Avent.
Pourquoi pas. De toute façon, toutes les bonnes mains sont toujours bienvenues, toutes les bonnes volontés. Pourquoi pas s'il y a des gens qui veulent venir. Après, on recherche toujours évidemment des adhérents. S'il y a des personnes qui veulent s'impliquer dans un projet ou dans un autre, enfin dans la vie de l'association ou bien dans cette restauration de l'Orgue de Notre-Dame qui nous prend beaucoup de temps.
Oui.
Voilà, c'est on prend tout le monde, il n'y a pas de problème.
Alors, comment joindre l'association des Amis des Orgues de Châlons-en-Champagne, Élodie Marchal ?
Alors, il y a par voie postale, si vous voulez, au collège Saint-Étienne. Ensuite, on a aussi un site, une page Facebook, déjà. Et puis, il y a aussi une adresse mail, info@occ51@gmail.com.
Voilà, qu'on mettra bien sûr en podcast sur notre site rcf.fr. Mais vous pouvez déjà retrouver l'association, comme vous le disiez, Élodie Marchal, sur la page Facebook Les Amis des Orgues de Châlons-en-Champagne. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui sur RCF. Je rappelle, présidente de l'association des Amis des Orgues de Châlons-en-Champagne, de nous avoir présenté ce prochain concert.
Merci
le concert
beaucoup,
d'orgue. Ben, je vous en prie, orgue et trompe de chasse ce dimanche à la cathédrale Saint-Étienne de Châlons-en-Champagne. Merci beaucoup.
Merci.
Merci Élodie Marchal et Christopher depuis le studio de RCF Cœur de Champagne. Un chouette rendez-vous à ne pas manquer ce dimanche 1er octobre 16h à la cathédrale Saint-Étienne de Châlons-en-Champagne. Ainsi se referme le magazine régional ce vendredi soir. Plusieurs rendez-vous ce week-end à noter évidemment dans le cadre de la neuvaine de Saint-Remy qui se clôturera ce dimanche à 16h à la basilique Saint-Remy de Reims. La solennité de Saint-Remy, procession de la chasse, illumination de la couronne aux 96 bougies. Venez nombreux et si vous ne pouvez pas être parmi nous, on aura une pensée pour vous et vous pouvez être en communion de prière via les ondes de RCF Reims-Ardennes, prise d'antenne à partir de 16h, célébration retransmise en direct et en intégralité. Monseigneur Bruno Feuillet, évêque du diocèse de C, ancien évêque auxiliaire du diocèse de Reims et des Ardennes, présidera cette célébration. Très bon week-end en compagnie des programmes de RCF, à lundi 18h10 pour le magazine régional.